One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour notre série d'été consacrée à la guerre économique. Après une première série d'été consacrée aux grands reporters, que vous pouvez encore retrouver sur le site internet de Conflit, nous allons aborder ces sujets de guerre économique qui sont ô combien importants. Nous avons une émission qui est consacrée au luxe et à l'importance du luxe, une autre sur la guerre de l'or entre la France et les États-Unis pendant la guerre froide. Et puis, nous avons aussi abordé la question de la souveraineté économique, qui est un véritable sujet. Nous allons y revenir au cours de cette émission pour voir notamment des aspects liés à ce que l'on appelle la marque France, liés aussi à l'importance de la souveraineté en matière numérique. Et pour évoquer ces sujets, je reçois Pierre-Marie de Berny. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes fondateur et directeur du cabinet Vélite. Vous avez publié le palmarès 2022 de la souveraineté économique. Il y a le palmarès 2021. C'était la première année en 2021 où vous réalisiez ce palmarès et donc ce deuxième palmarès cette année. Ce palmarès, où peut-on le retrouver pour nos auditeurs qui voudraient le lire en entier?
Alors, il est téléchargeable gratuitement sur le site du cabinet Vélite, cabinet-vélite.com.
Voilà, et comme à chaque fois, nous mettrons les liens et les références sur le site de Conflit pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des informations qui sont citées au cours de cette émission. Alors, dans une émission précédente, nous avons évoqué la question de la souveraineté économique. Vous nous présentiez votre étude et ce que vous entendiez par souveraineté économique. Dans votre rapport, il y a beaucoup de choses extrêmement riches et on voit aussi la diversité de l'économie française. Et il y a un sujet que vous abordez qui est ce qu'on appelle la marque France. Vous parlez d'un actif immatériel. Cette marque France qui est régulièrement évoquée, mais ça peut paraître un petit peu curieux de se dire que la France est une marque, c'est un pays, c'est une nation, mais on n'imaginait pas que ça puisse être une marque au même titre que Cartier, Chanel, enfin quelque chose qui se vend. Oui. Qu'est-ce que vous entendez justement par cet aspect de marque France?
Oui, vous avez raison, c'est ce qu'on appelait un actif immatériel, au sens où la bonne réputation du Made in France à l'étranger permet aux entreprises françaises d'exporter. Il faut quand même se rendre compte que la France a quelques atouts. La France est un tout petit poussé, puisque la France, c'est moins de 1% de la population mondiale. Mais la France, c'est par ailleurs une grande puissance industrielle, hein, la sixième puissance économique mondiale. C'est une grande puissance d'innovation. Et c'est une puissance qui a un soft power très important à travers notamment la marque France. La marque France, une étude a montré que c'était aujourd'hui la sixième marque pays au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à produit équivalent, un consommateur étranger préférera acheter le produit français uniquement parce qu'il est français. Et ça fonctionne à condition que les entreprises françaises qui exportent continuent d'exporter d'abord des produits de qualité pour soutenir cette réputation de l'industrie française auprès des consommateurs étrangers, mais aussi que les entreprises véhiculent une belle image, une bonne réputation de la France à l'international. Et tout ça, on est allé le mesurer entreprise par entreprise pour voir si elle contribuait à alimenter cet actif commun qui permet à tout le tissu productif français d'exporter et de plus en plus.
Alors, cette marque France est valable uniquement pour l'agroalimentaire et le luxe, les baguettes de pain qu'on trouve à New York, ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi concernés?
Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que, oui, sans surprise, le luxe est l'un des principaux contributeurs de cette réputation de la France à l'international et de cette marque France. Mais la grosse surprise de notre étude, c'est de constater que le secteur qui contribue le plus fortement au développement de la marque France à l'international, c'est l'automobile. Ça a été une surprise pour nous parce que le luxe, on y pensait évidemment, mais l'automobile donne, enfin est un porte-étendard et le premier porte-étendard devant le luxe de la marque France à l'international. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Je me souviens de Carlos Ghosn qui disait pendant les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, quand on lui demandait mais est-ce que il faut vendre une voiture en disant c'est une voiture française, et il disait ah oui absolument. Et quand on lui demandait pourquoi, il disait mais parce que ça fait vendre. Voilà, donc c'est assez bien résumé. Et il y a un autre secteur qui contribue assez fortement à la promotion de la marque France à l'international, c'est le secteur énergétique, notamment avec Engie et Total, qui sont très bien classés sur la partie soft power de nos indicateurs. Et c'est bien à souligner parce que on le rappelait dans l'émission précédente, le groupe Total, par exemple, n'a pas une très bonne réputation, notamment auprès de nos étudiants. Et alors qu'à l'international, c'est un groupe qui est très très bien perçu. On a des groupes d'énergie, Engie également, qui sont très bien perçus à l'international et qui alimentent cette marque France à travers des tas d'initiatives de communication, mais pas que, notamment à travers la création de nombreuses chaires universitaires à travers le monde qui permettent ensuite de capter les meilleurs talents. Et donc voilà, tout ça contribue à alimenter la marque France. Ce qu'on a mesuré également, c'est la contribution à travers des sponsoring à fort rayonnement et tout un tas d'indicateurs. Donc voilà, le luxe, mais surtout l'automobile et dans une moindre mesure l'énergie sont les principaux constructeurs de la marque France.
Vous avez mis pour illustrer ça une photo d'une voiture de 24 heures du Mans avec un pneu Michelin. Il y avait une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années maintenant sur les logos des marques, et le petit bibendum de Michelin était celui qui, à travers le monde, était le plus connu et le plus apprécié.
Tout à fait, et c'est peut-être ce qui explique en partie le résultat de notre étude. Michelin arrive premier du classement sur la partie contribution au soft power français.
Et si on reste dans l'automobile, les 24 heures du Mans, c'est aussi une course qui est d'ailleurs un peu moins connue en France aujourd'hui, enfin, elle a un peu perdu en popularité en France, mais à l'étranger, elle a un rayonnement qui est extrêmement important.
Ah oui, il faut dire qu'une fois par an, la planète automobile française est au Mans. Hein, devient le centre du monde pour un long week-end, et c'est une institution mondiale de tous les fans d'automobile.
Cette marque France, on voit bien le rôle qu'elle peut jouer pour le consommateur, en disant je vais acheter une voiture parce qu'elle est française. Est-ce que ça peut aussi jouer un rôle quand une entreprise française veut conquérir un marché à l'extérieur, en disant on va prendre un tel parce qu'ils sont français pour gérer l'eau à Buenos Aires, ou pour une question de développement pharmaceutique, on va prendre Sanofi, non pas quelqu'un d'autre, parce que c'est français?
Oui, alors il y a deux notions. D'abord, il y a la compétence technique. Vous avez cité par exemple le domaine de l'eau. Aujourd'hui, on a le grand champion mondial de l'eau, le premier groupe en matière d'environnement et notamment de gestion de l'eau, c'est Veolia, c'est un Français. Donc il y a la supériorité technique qui fait qu'on a toutes les chances de remporter des marchés internationaux si on se donne la peine d'être très conquérant. Mais il y a une autre notion qui rentre en ligne de compte, parce qu'il y a des tas de secteurs, l'eau en fait partie, hein, mais il y a des tas de secteurs sur lesquels on est très challengé par des concurrents internationaux d'excellente qualité. L'émergence de la Chine, on a des propositions concurrentielles qui s'élargissent encore plus. Qu'est-ce qui fait la différence pour les Français? Il est évident que la qualité technique doit être au rendez-vous et qu'il faut vendre à un prix acceptable pour un client. Mais moi, je le constate pour accompagner beaucoup d'entreprises sur les conquêtes de marché, notamment à l'international, il y a quelque chose qui est reconnu aux Français. C'est qu'ils sont souvent plus coopératifs dans le déploiement des projets. Les Anglo-Saxons ont la réputation d'être extrêmement juridiques dans leur approche, légalistes dans leur approche, ce qui peut provoquer des conflits assez violents dans la négociation des fameux claims. Et donc parfois, des États notamment sont amenés à faire travailler des Français, et le fait que cette French touch, donc cette capacité à la fois d'adaptation et en même temps cette souplesse dans les relations contractuelles peuvent jouer en faveur de la France sur des marchés. J'ai en tête des marchés récents dans le sud-est asiatique.
Vous parlez justement de ces entreprises qui se développent à l'étranger, enfin entreprises françaises qui se développent à l'étranger. Est-ce qu'on a des régions particulières en dehors de l'Europe? Est-ce qu'on a des régions particulières? Vous avez évoqué le sud-est asiatique, l'Amérique latine, l'Asie centrale. Est-ce que l'on voit se dessiner des endroits où les entreprises françaises sont particulièrement présentes?
Alors, c'est très variable selon les secteurs, mais ce qu'il faut souligner, c'est que les grands groupes français sont présents absolument partout dans le monde. Ils exportent partout dans le monde. Alors, il y avait un terrain de chasse privilégié, qui était évidemment l'Afrique, avec les liens privilégiés que la France entretient avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, aujourd'hui, les intérêts économiques français sont quand même assez contrariés en Afrique par les velléités chinoises, mais également russes. On a également les Britanniques qui étendent leur influence. La France perd un petit peu en influence là-bas et ça se traduit aussi économiquement. Malgré tout, la France reste, c'est très variable selon les secteurs encore une fois, mais reste présente sur tous les marchés au niveau mondial, qui soient, y compris des marchés émergents.
Et aux États-Unis, c'est suscité des questions juridiques, c'est compliqué. Est-ce que les Américains empêchent la venue d'entreprises françaises ou est-ce que vous avez des exemples d'entreprises françaises qui arrivent à s'installer aux États-Unis?
Non, il y a des entreprises françaises qui s'arrivent très 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 bien aux États-Unis. On parlait de Veolia tout à l'heure, ils sont très performants aux États-Unis. Il y a des tas de groupes qui sont présents aux États-Unis. Il y a aussi des groupes qui rachètent beaucoup d'entreprises américaines. On peut prendre le cas Sanofi, autour de 3,5 milliards d'euros de rachats cette année, uniquement de grosses biotech stratégiques, dont deux aux États-Unis, deux très importantes aux États-Unis. C'est une des illustrations qui montre que les groupes français peuvent être conquérants aux États-Unis. La seule difficulté, c'est que à travers ces rachats, il ne faut pas qu'ils se rendent tributaires des Américains dans leur capacité à piloter et à gérer de manière indépendante leur groupe. Le cas Sanofi, comme beaucoup d'autres cas, pose cette question.
Alors, dans votre étude, vous avez un sujet qui est consacré à la souveraineté numérique, qui est effectivement un sujet extrêmement important parce que tout le monde, évidemment, utilise des données numériques. Or, ces données sont pour une grosse partie stockées dans des entreprises, dont une grande partie est américaine. Alors, il y a Google Cloud, il y a Amazon. Souvent, quand on parle d'Amazon, les gens voient les livres, mais en fait, la question du livre, ça ne pèse rien dans le chiffre d'affaires d'Amazon. Le principal actif d'Amazon, c'est l'allocation de ses serveurs et de ses serveurs informatiques. Et d'ailleurs, la SNCF stocke ces données, si je ne me trompe pas, chez Amazon. Donc là, il y a un sujet effectivement d'indépendance des données qui peuvent être utilisées, qui peuvent être récupérées par les autorités officielles, la CIA ou d'autres.
Oui, alors il faut rappeler effectivement qu'aujourd'hui, les leaders qui sont en position quasi hégémonique sur le marché du stockage des données, c'est effectivement Amazon à travers son offre Amazon Web Services, c'est Google Cloud et c'est Microsoft Azure. Il faut savoir que un rapport du Sénat a déterminé que aujourd'hui 80% des données des citoyens et des entreprises françaises sont hébergées aux États-Unis. C'est un sujet extrêmement préoccupant. La question est de savoir comment réagir. Alors, on parle beaucoup de cette question de souveraineté numérique. Nous, à notre petite échelle, on propose une piste de réflexion qui consisterait à cartographier les informations les plus sensibles des entreprises. Il y a un outil qui permet de le faire, puisque Bercy, cette année, a modernisé la loi de blocage de 68, qui permet de protéger les informations stratégiques face aux juridictions étrangères, de nos entreprises, j'entends. On pourrait prendre la classification qui est utilisée par Bercy en S1, S2, S3, donc sensible, les informations sensibles souverains, sensibles entreprises ou non sensibles, et peut-être qu'on pourrait prendre toutes ces informations dites sensibles souverains, pour les héberger sur des solutions françaises, puisque la France a quand même des capacités en matière de cloud à travers les propositions qui sont faites par Dassault Outscale, par OuDrive ou par OVH Cloud. Ça pourrait être une première piste, et puis ça donnerait aussi de l'élan et des capacités d'investissement à ces solutions françaises pour qu'elles puissent progressivement au cours des années proposer des services qui permettent d'héberger un plus grand nombre de données. Parce qu'aujourd'hui, les hyperscalers américains ont des propositions qui sont bien plus alléchantes que les Français. Voilà pour cette question de la souveraineté des données. Après, je rentrerai pas plus loin dans le débat, mais il y a toute cette question du cloud de confiance avec les collaborations entre des groupes français, Thales notamment, qui travaille avec Google. On a des solutions qui vont arriver qui sont dites de confiance, labellisées par l'ANSI, mais il n'est pas certain que les services de renseignement US soit empêché d'accéder à ces données. Donc on a clairement un vrai problème de souveraineté numérique.
Puis une des raisons pour lesquelles les gens utilisent Google ou Amazon ou Microsoft, c'est que c'est très efficace, ça fonctionne très bien, donc il n'y a quasiment pas de bugs, c'est très commode, donc c'est quand même sur les sujets sur lesquels ils sont meilleurs, oui. Donc il est normal aussi qu'ils attirent les entreprises.
Très clairement. C'est pour ça que la question qu'on s'est posée, c'est comment aider les entreprises françaises à arriver à ce niveau de qualité de service. Mais pourront le faire que si elles ont des capacités d'investissement, et ces capacités d'investissement viendront si elles ont des clients. Et donc, nous, on regarde d'ailleurs dans les indicateurs pour classer nos entreprises, là, dans l'étude sur la souveraineté, on regarde si elles ont des actions qui permettent de faire émerger des solutions de cloud souverain à travers soit la proposition de solutions, et il y en a plusieurs, hein, Orange ou Thales, par exemple, proposent des solutions dans ce domaine-là, ou si elles contractualisent avec des Français pour une partie de leurs données. Ce qui permet de faire monter en puissance ces acteurs français pour qu'à terme, ils proposent des services de la même qualité.
Alors, on va terminer par un sujet qui est là aussi extrêmement intéressant, qui est la question des banques. Parce qu'à Conflit, on aime bien étudier ces sujets, ces rapports entre le local et le global, entre, on va dire, la géopolitique mondiale et la géopolitique locale, celle des régions, voire celle des terroirs. Et la banque en est un excellent exemple, une très bonne illustration, avec nos trois champions qui sont le CAC 40, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas. Et la banque joue un rôle fondamental dans ce maillage territorial, déjà de par la présence des agences bancaires. Alors ça fait toujours râler quand une banque s'installe dans un centre-ville, mais enfin, si elle s'installe, c'est que ça correspond aussi à un besoin. Et puis, ces banques contribuent au dynamisme des PME, au dynamisme des entreprises locales.
Oui, c'est vrai, il est souvent de bon ton de critiquer les banques, mais il faut reconnaître que sur le plan de la souveraineté, de la contribution à la souveraineté du pays, elles jouent un rôle déterminant. D'abord, comme on le disait tout à l'heure, parce que une banque, c'est un outil de souveraineté extrêmement important pour un État. Et en France, on a la chance d'avoir des établissements bancaires très puissants et solides. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, on le remarque, les banques sont déjà les premiers soutiens des PME. Quand on regarde notre étude, on passe au crible tous les groupes du CAC 40, les banques sont les premiers soutiens des PME à travers déjà le financement, mais aussi à travers des initiatives très concrètes. Elles ont été extrêmement solidaires pendant la crise du Covid. Mais pour citer qu'un seul exemple, hein, vous prenez le Crédit Agricole dans les Hauts-de-France, le Crédit Agricole a monté en partenariat avec la Caisse d'Épargne un fonds qui s'appelle Regain 360, doté de 51 millions d'euros pour aider concrètement des entreprises à se développer, des petites entreprises à se développer. Vous voyez, ça c'est très concret. Par ailleurs, les banques ont de très nombreuses initiatives qu'on a pu recenser en faveur de l'insertion sociale. Et puis, elles participent aussi à faire rayonner la France parce que les banques sont de grands sponsors d'événements français à portée internationale, mais aussi de fédérations sportives qui permettent à la France, à travers des équipes sportives, de briller à l'international dans différentes disciplines. Donc, puis vous l'avez rappelé, structurellement, les banques ont aussi un maillage territorial qui les met au plus près des PME et des territoires. C'est vrai qu'elles sont d'ailleurs de très loin le premier secteur sur le volet contributif de notre étude sur l'intelligence économique.
On parlait du sport, la BNP soutient ou sponsorise Roland-Garros, qui est un des principaux tournois et vu énormément dans le monde.
Oui.
Alors, c'est pas dans le CAC 40, mais le Crédit Lyonnais finance le Tour de France avec le maillot jaune. Et puis, Société Générale, c'est le rugby. Donc, sommes au lendemain où, pour la première fois, l'équipe de 15 de France est premier au classement IRV. Ouais. Donc, c'est aussi un petit peu grâce à la Société Générale qui finance ces équipes.
Voilà, tout ça fait rayonner la France. On aurait pu citer les JO 2024 également, ou encore le Marathon de Paris, puisque certaines entreprises qu'on a étudiées les sponsorisent. Tout ça, ça fait rayonner la France et ça contribue encore à alimenter cet actif immatériel de la marque France dont on parlait tout à l'heure.
Merci beaucoup Pierre-Marie Berny d'être venu nous présenter votre étude et puis on a hâte de lire l'étude 2023 et de voir les évolutions qu'il peut y avoir au cours des années. Merci à vous pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des autres émissions de cette série d'été consacrée à la guerre économique sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, ainsi que plus de 300 émissions en archive, de quoi alimenter vos trajets d'été. Si vous êtes en voiture, si vous êtes en bateau ou en avion, eh bien vous pourrez comme ça passer, on l'espère, de bonnes vacances à l'écoute de Conflit avec l'ensemble de ses invités qui sont venus au cours des mois écoulés. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.